Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour nous permettre de mieux comprendre le texte que nous allons lire aujourd'hui dans le livre « D'un jardin à l'autre » écrit par Frédéric Baudin, je vous propose de reprendre le début de la lecture du chapitre 13. Nous entrons dans le jardin de la souffrance. Nous partageons la traversée de ce dixième jardin en commençant par la lecture d'un texte tiré du chapitre 53 du livre d'Ésaïe qui se trouve dans la Bible. Je lis. Le jardin de la souffrance. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, les versets 2 à 5. L'homme et la femme du Cantique des Cantiques étaient jeunes, beaux et bien portants. Si ce berger et sa compagne n'étaient pas riches, ils avaient encore un amour inaltérable pour le trésor. La beauté est sans aucun doute un reflet de la gloire du Créateur. Le sentiment qu'elle suscite, de l'émerveillement à l'amour, reste à bien des égards un mystère, un je ne sais quoi pascalien. Mais n'est-elle pas aussi le prétexte à bien des contresens et des usages douteux? Combien de très belles femmes offrent-elles leur corps en pâture au regard d'amateurs libidineux en mal de voyeurisme davantage que de plaisir esthétique? Les magazines les plus obscurs exhibent ces corps parfaits sans état d'âme. Ils circulent librement et sont exposés dans les kiosques. Le réseau Internet est saturé de ces pages qui surgissent sur les écrans, souvent à notre corps défendant ou avec une douteuse complicité. La beauté ne sauvera pas le monde, comme l'imaginaient encore les idéalistes du siècle romantique et les adeptes de l'art pour l'art. Mal servie et interprétée, elle peut au contraire le perdre. Elle demeure toutefois un idéal à contempler, une révélation partielle du but à atteindre que l'Académie même ne suffit pas toujours à définir. À trop vouloir toutefois contredire cette noble institution et jouer systématiquement dans la cour des indépendants ou rejoindre les partisans de l'art brut, on a multiplié le sens et les canons de la beauté au point que nous sommes aujourd'hui sans repère fixe pour bien l'établir et l'apprécier. Le règne totalitaire de l'image, de soi comme des autres, a érigé l'artifice en règle d'art. On s'attache à ne plus voir aucune ride, aucun pli disgracieux, aucune faiblesse de cette chair que l'on voudrait éternelle et sans défaut. Rembrandt aurait-il peint de nos jours son admirable portrait d'une vieille femme? Pire, à l'autre extrême, la laideur est désormais considérée comme une forme de beauté. On va jusqu'à sacrifier un animal, a-t-on entendu dire, sur la chaire de quelques écoles des beaux-arts en guise d'exercice artistique plus cruel que réaliste. Mais ce sont là exemples excessifs. L'art contemporain réserve encore de belles surprises. Au sein de tous ces courants désorientés circulent deux vérités. L'esthétique sera toujours une science du beau idéal. Nous gageons qu'elle continuera d'exercer son tropisme mystérieux sur nos sentiments. La laideur est une donnée incontournable de la réalité, mais elle est perçue comme anormale et provoque en général un premier mouvement de répulsion. Elle est cependant l'expression de la souffrance universelle qui nous conduit à l'humilité et appelle notre compassion. Car la souffrance n'est pas dénuée de grandeur. Celui qui l'endure avec patience, tant au physique qu'au moral, mérite notre respect, voire notre admiration. Nous souffrons tous, un jour ou l'autre, cette passion qui altère notre beauté et cependant la rehausse d'une autre manière. La souffrance humaine, toutefois, est absurde, incompréhensible et inutile. Nul ne veut plus même, aujourd'hui, la voir ni l'entendre. On la fait taire et on la cache par tous les moyens. On ferme les portes sur les soupirs, les plaintes, les cris d'angoisse et de douleur. La souffrance est un désert traversé par deux chemins. L'un conduit à la révolte et nous éloigne plus encore du jardin des délices. Sur l'autre, le désir de recevoir, de revenir au Seigneur peut sourdre et irriguer ces terres ingrates pour les transformer en jardins fertiles. Le Tout-Puissant les a parcourus pour nous et avec nous dans la faiblesse. Pour cela, il a pénétré en premier lieu dans le jardin de Gethsémani. Le soir où Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, il sait déjà qu'il va souffrir. Il va affronter la trahison de l'un de ses disciples et les accusations de plusieurs éminents maîtres de la loi mosaïque. Il sera condamné sur la déposition de quelques témoins mal intentionnés. Il va endurer les coups et les moqueries de la garde romaine. Il subira enfin le châtiment suprême des occupants dont la religion se nourrit des frasques d'un panthéon versatile et turbulent. Le matin même, tandis qu'une femme répandait sur lui un parfum de grand prix, il a une nouvelle fois annoncé sa mort. Cet embaumement précoce laisse présager les préparatifs de sa mise au tombeau. Le repas de la Pâque est solennel. Les disciples commencent à comprendre que ce céder pourrait être le dernier qu'ils prennent avec leur maître. Comme de coutume, le dîner est probablement rythmé par le récit traditionnel de la sortie d'Égypte, mais il prend cette fois une dimension singulière. Agneau pascal, herbes amères, pain sans levain et coupe de vin, Jésus amplifie et renouvelle le sens de ces éléments symboliques qui évoquent la délivrance d'Israël sous la conduite de Moïse. Au moment choisi, il ne se contente pas de se laver rituellement les mains. Il prend une tenue de serviteur et lave les pieds de ses disciples. Tous s'interrogent. Pierre s'indigne. Jean le contemple avec admiration. Judas se prépare à le trahir. Il trempe son morceau de pain dans le plat et prétexte aussitôt une course urgente pour quitter les convives. Puis Jésus prend une matza, un pain sans levain. Il prononce la bénédiction habituelle. Il remercie le Dieu créateur qui fait sortir le pain de la terre. Il la brise et en distribue les morceaux à ses proches. Ils ne comprennent pas encore le sens précis de ces paroles énigmatiques. « Ce pain est mon corps donné pour vous. » Ils ne saisiront pas davantage, après qu'ils auront mangé l'agneau pascal, la portée de la bénédiction sur le fruit de la vigne créée par Dieu et surtout de cette parole de délivrance qui l'accompagne. Ce vin est mon sang répandu pour couvrir vos fautes. Buvez-en tous. Jésus inaugure ainsi pour Israël une nouvelle alliance élargie aux hommes et aux femmes de toutes les nations sur lesquelles il veut aussi répandre sa lumière. Jésus prononce alors un dernier discours dans Jean 13, 17. Comme il est courant après le repas de cette fête que tous les Juifs célèbrent au printemps et si possible à Jérusalem, il répond aux questions de ses fidèles qu'il considère désormais comme ses amis, car il leur parle ouvertement et sans détour. Cette fois, s'il subsiste un doute dans leur esprit, ils s'efforcent de le dissiper. Il est bien le Messie promis, ses paroles ne souffrent aucune ambiguïté. Il se présente en effet comme le seul chemin qui mène à Dieu, la vérité qui l'éclaire, la vie qui en marque l'issue flamboyante. Il est un avec son Père. Il lui demandera de leur envoyer son esprit afin qu'il demeure avec eux et qu'il ne soit pas seul. Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu un les aime. Le mot revient plusieurs fois. Dieu aime. Ceux qui placent en lui leur foi et qui s'en réclament doivent aussi aimer. Qu'ils soient un, eux aussi, comme Jésus et son Père sont un. On reconnaîtra ses disciples, poursuit Jésus, comme un arbre aux fruits qu'ils portent, à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Jésus leur offre de partager ainsi sa joie et sa paix. Une joie profonde, une paix comme on ne peut l'imaginer, elle surpasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Un seul commandement demeure, insiste Jésus, aimer. Toujours et encore, sans se lasser, cultiver ce fruit dans l'assemblée de ceux qui partagent la foi au Seigneur, le porter vers les foules, susciter la saine jalousie de ceux qui le contemplent et le désirent lorsqu'il prend ses couleurs appétissantes sur l'arbre. C'est ainsi que Dieu sera glorifié. Mais pour que ce fruit mûrisse, il faut rester uni au Messie, comme les sarments sont attachés au cep dont le divin vigneron prend soin. Parfois, il émonde les branches inutiles afin que les fruits soient plus beaux encore. Dans la communion retrouvée avec Dieu, la prière sera le lien le plus tangible de cette relation nouvelle. Les disciples de tous les temps, ensemble, pourront l'appeler « notre Père ». Fils et filles pourront enfin vivre dans le jardin de l'Alliance éternelle où fleurissent et fructifient l'amour, la joie et la paix. Mais pour l'heure, les disciples ne peuvent tout à fait le croire, car l'homme Dieu déclare de nouveau, sans ambages, qu'il va mourir. L'heure s'approche. Il est temps de quitter ce lieu paisible où l'on oublie les troubles du dehors et les menaces qui pèsent sur le prince de la paix. Après qu'ils ont chanté les psaumes du Hallel, ces louanges autrefois composées par le roi David et les musiciens du temple, que l'on trouve dans Psaume 113 à 118, ou encore Matthieu 26, 30 ou Marc 14, 26, Jésus et ses disciples se rendent dans un jardin où ils ont pris l'habitude de se rencontrer pour parler du règne de Dieu. Le jardin de Gethsémani se trouve au pied du mont des Oliviers. Il porte bien son nom, un pressoir à huile permet de recueillir la précieuse substance des olives qui entre dans la fabrication des parfums sacrés, des onguents médicinaux ou des cosmétiques. L'huile d'olive sert également de combustible domestique et elle est abondamment utilisée dans la cuisine traditionnelle. La meule ronde est impressionnante. Les disciples ont certainement déjà vu les oléiculteurs l'actionner pour qu'elle écrase inexorablement les olives recueillies dans ce jardin même. Mais leurs pensées sont ailleurs. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas le courage de se joindre à Jésus pour prier en cette heure sombre où se décide le sort de leur maître. Ils somnolent, certains s'endorment. Jésus reste seul. Il a peur, l'angoisse le submerge. Au milieu des oliviers dont les feuilles argentées luisent sous la lumière de la lune, il supplie à trois reprises son Père de lui épargner les souffrances, de l'empêcher d'affronter cette mort qui n'est réservée qu'aux hommes et non au Fils de Dieu. La pression se fait plus intense. Songe-t-il à la meule toute proche qui, cet hiver encore, a broyé tant d'olives? La sueur perle à son front. Elle ruisselle bientôt comme une hémorragie. Jésus a bien essayé d'appeler ses disciples, mais ils ne l'entendent plus. Ceux qui veillent encore d'un œil n'ont plus la force de l'accompagner sur ce chemin bordé d'épines, sous cette pierre qui le broie, sur cet autel où il s'offre en sacrifice, dans ce jardin de la souffrance. Ils l'entendent peut-être comme de loin se soumettre enfin à la volonté de son Père. Il se donne tout entier, il accepte de porter le péché du monde. Jean le Baptiste ne s'est pas trompé qu'il a accueilli comme l'agneau de Dieu, chargé de toutes les fautes de l'humanité. Il est aussi le bouc émissaire que l'on envoie dans le désert pour y mourir. Mais qui donc cette nuit pourrait voir en cet homme souffrant, sans force ni beauté pour attirer les regards, prophétisait encore Ésaïe 53, verset 2, un Dieu dont l'amour le porte à s'immoler pour ses créatures. Qui donc pourrait voir en ce Messie angoissé le libérateur plus grand que Moïse, Deutéronome 18, verset 15, ou Actes 3, 22, ou 7, 37? Pourtant, promis à Israël dès l'orée du pays où coule le lait et le miel, où prospèrent grenadiers et figuiers, vignes et oliviers. Voici, au contraire, que dans ce jardin de la déréliction, une milice romaine s'avance, conduite par Judas, qui sourit à son maître et l'accoste à Nami. Le fauteur de troubles est ainsi désigné. Les hommes en armes s'en emparent. Les disciples ont bien tenté de réagir. Pierre a sabré l'oreille d'un soldat, mais cette résistance est dérisoire et Jésus lui-même la condamne. Quiconque le défend par l'épée mourra par l'épée. Pierre retiendra la leçon. L'apôtre Paul l'enseignera plus tard. On ne combat jamais pour Dieu avec les armes forgées par les hommes. Seules les armes de l'esprit sont efficaces dans ces batailles qui se déroulent dans l'invisible. Elles sont réservées à ceux qui portent les fruits de l'esprit. Éphésiens 6, verset 10-20 ou Galates 5, 22.
Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell all Pharaoh to let my people go. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. To the book the Lord bound Moses said, let my people go. If not as man your firstborn dead, let my people go. Yes, the Lord said, go down,
go down.
Moses
way
down in Egypt land. Tell
Pharaoh,
let my people go.
Jésus subit bientôt les interrogatoires et les moqueries, les procès juifs et romains. Il est roué de coups par les gardes de Pilate et affublé des symboles dérisoires de la royauté. Couronne d'épines, roseau en guise de sceptre, manteau rouge prêté par quelques soldats qui crachent au visage du roi des Juifs. Comme une plante courbée par la tempête, il se tient au centre d'une foule ondoyante. Au début de la semaine, elle le portait au nu et déposait des palmes sous ses pieds. Elle se répand aujourd'hui en imprécation et approuve sa condamnation à mort. Le roi des rois porte maintenant sur ses épaules, comme un esclave, le patibulum, la pesante traverse de son gibet. Ses disciples le suivent de loin quand ils ne se sont pas enfuis. Il est seul malgré la foule lorsqu'il monte vers le mont Golgotha, à l'extérieur des murs de la ville. Bientôt sa croix est hissée entre deux autres. Elle forme un bosquet si insignifiant au sein de la forêt de croix dressée depuis des années par l'occupant romain, soucieux d'imposer son ordre et sa pax romana à toute la terre par la force. Jésus est cloué sur la croix. On a percé ses mains et ses pieds. On lui réserve le traitement des grands criminels. Mais il n'est pas comme les deux hommes qui souffrent à ses côtés, brigands, meurtriers ou révoltés politiques qui font trembler les citoyens juifs et le pouvoir de Rome sur la Judée. C'est un juste. Il ne mérite pas ce châtiment, reconnaît un centenier romain assistant à son agonie. Des juifs présents au pied de cette croix l'approuvent. Ils ne l'ont pas tous renié. Ils pleurent et se désolent de voir leur maître subir cette humiliation. Au sein de la plus extrême souffrance, Jésus trouve encore la force de prier son Père afin qu'il pardonne ses ennemis et ses bourreaux. Ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font, soupire-t-il. Les soldats romains qui ont procédé à la crucifixion semblent indifférents. Ils se sont habitués à ce supplice cruel. Ils en connaissent toutes les phases et les degrés. Cela peut durer des heures, parfois même plusieurs jours. Ils jouent au dé. Ils tirent au sort les vêtements des condamnés. Ils n'entendent plus les passants qui injurient et maudissent Jésus. Les Juifs connaissent bien la loi de Moïse, qui déclare « Maudit quiconque est pendu à un arbre » Deutéronome 21, 22, 23 ou Galates 3, 13. C'est pour eux un signe divin. Si ce Yeshua, cet homme qui porte le nom de Sauveur, était bien le Fils de Dieu, il aurait chassé les armées étrangères. Il aurait instauré un règne de paix sur ce jardin promis par Dieu à son peuple, où auraient fructifié les vignes et les vergers du Seigneur, où le lion se serait contenté de la même herbe que l'agneau. Il n'aurait jamais péri de la sorte, cloué sur une croix romaine, pendu à l'arbre de la malédiction, rejeté par les hommes et par Dieu lui-même, vaincu par le serpent ancien qui s'enroule voluptueusement autour de cette branche, à présent secouée par un vent d'orage. Le mont Golgotha est un jardin des damnés, où les bois sont calcinés par les feux du jugement des hommes et de Dieu. L'atmosphère est lourde, le ciel s'obscurcit, bientôt la terre tremble, comme il arrive souvent dans cette contrée parcourue de failles. « Tout est accompli !» s'écrie soudain Jésus avant de rendre le dernier soupir. Sa mère et d'autres femmes, ses rares disciples et ses amis de Judée ou de Galilée qui l'ont suivi et assisté en tout lieu, ont peine à croire qu'il est mort. Comme pour mieux les en convaincre, sur l'ordre de Pilate, un soldat romain fiche sa lance dans sa poitrine. Du sang et de l'eau s'écoulent de la plèvre perforée. Le supplicié est bien mort. Inutile de lui briser les jambes, comme aux deux autres condamnés pour accélérer l'agonie. En cette veille de sabbat, les corps doivent être enterrés avant l'apparition de la première étoile. Il faut agir rapidement. Joseph d'Arimathée, un membre éminent du Sanhédrin, le tribunal ou conseil religieux des Juifs, a obtenu l'accord de Pilate d'ensevelir Jésus dans un tombeau qu'il possède dans un jardin tout proche du mont Golgotha. Cet homme est riche et respecté. Il n'a jamais osé se déclarer disciple de Jésus par crainte d'être exclu du conseil, tout comme son confrère Nicodème, qui préférait rencontrer Jésus une fois la nuit tombée, de peur d'être reconnu par ses pairs. Mais en ce jour, leur amitié et leur admiration pour le rabbi de Galilée est notoire. Pilate la connaît désormais et les membres du Sanhédrin ne tarderont pas à l'apprendre. Ils se chargent donc des premiers soins funèbres. Ils embaument Jésus avec un mélange de myrrhe et d'aloès et l'enveloppe de bandes, puis d'un linceul de l'impur, avant de le déposer dans une tombe neuve creusée dans la falaise calcaire. Ils font aussitôt obstruer l'entrée par une lourde pierre circulaire. Les femmes qui les accompagnent ont bien observé comment ils ont déposé Jésus dans son tombeau. Elles reviendront après le sabbat pour parfaire cet embaumement sommaire. Tous quittent alors les lieux et rejoignent la ville. Le jardin retombe dans le silence de la mort et de la nuit. Chapitre 14. Le jardin de la tombe et de la résurrection. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. La volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Ésaïe, chapitre 53, versets 9 et 10. Quel est donc ce jardin proche du mont Golgotha et de Jérusalem, où Joseph d'Arimathée possède une tombe? On y trouve sûrement des fleurs sauvages et cultivées, des lys, du thym et du romarin, des figuiers profitant d'un filet d'eau souterrain, des oliviers, de la vigne, des amandiers ou des palmiers dattiers, semés par quelque oiseau gourmand ou plantés par un jardinier attentionné, des pins élancés, un cèdre majestueux ou des cyprès peut-être, semblables à ceux qui indiquent la présence d'un cimetière privé en terre cévenole. À cette époque du printemps, certains arbres sont en fleurs. Les oiseaux chantent dès le matin et se préparent à nicher. On peut visiter ainsi, en dehors de la vieille ville de Jérusalem, aux abords de la porte de Damas, un jardin de la tombe, plus évocateur que le Saint-Sépulcre, mais dont l'authenticité reste hypothétique. Qu'importe, une question plus cruciale demeure autour de cette tombe. Pourquoi donc Jésus est-il mort? Le sacrifice du Fils de Dieu est un mystère. On l'a contesté dès le premier jour. La notion même de sacrifice suscite l'indignation et la gêne dans notre société contemporaine, à plus forte raison lorsqu'on l'applique au Messie. Jésus a bien vécu et il est mort. Le fait est considéré aujourd'hui comme historique par la grande majorité des exégètes et la plupart des historiens. Il est attesté par les témoins dont les rapports succincts sont consignés dans les évangiles. Cette mort reste pourtant incompréhensible. Il n'est, a priori, pas conforme à la raison, voire à la foi au Tout-Puissant, que le Fils de Dieu meure ainsi de la main des hommes qu'il a créés. Le Seigneur n'a cependant jamais demandé de croire l'absurde. Le fidéisme n'est pas une religion soutenable. Elle ne peut résister à l'usure du temps, même à l'échelle humaine. Certains responsables juifs ont l'intuition que la disparition de Jésus ne sera pas anodine. Dès le lendemain matin, jour de sabbat pourtant, ils dépêchent une ambassade auprès de Pilate pour obtenir que la tombe soit gardée. Ils craignent que les disciples de Jésus dérobent le corps de leur maître et qu'ils proclament ensuite la nouvelle de son retour à la vie. Le troisième jour après sa mort, conformément à ses allégations, la garde personnelle de Pilate est envoyée sur place. Certains des soldats qui ont probablement assisté au procès du rabbi contesté, ceux-là même, peut-être, qui l'ont insulté ou battu, qui lui ont craché au visage ou l'ont affublé des ridicules symboles d'une royauté de paille, se rendent sur les lieux. Sous le regard vigilant des délégués juifs, ils constatent, précise Matthieu, que tout est bien en place, puis ils font sceller la pierre du tombeau et se mettent en faction. Matthieu chapitre 27, les versets 62-68. À l'aube du troisième jour, les gardes sont toujours sur place. Les femmes se sont levées de bon matin pour tenir leurs promesses. Elles se rendent au jardin de la tombe pour achever les soins mortuaires. Elles ont les bras chargés d'aromates qu'elles viennent d'acheter sur les marchés. Soudain, la terre tremble de nouveau. Les gardes sont pétrifiés. Un ange apparaît aux femmes et leur déclare que Jésus est vivant. Comme souvent pour ces récits évangéliques de la Passion du Christ, les versions diffèrent. D'aucuns veulent soulever les contradictions apparentes de ces témoignages. Ceux-là même qui s'efforcent de nier que la notion de sacrifice puisse être associée à la mort de Jésus sont les plus zélés promoteurs de ces déconstructions très raisonnables qu'ils s'empressent de valider objectivement auprès des spécialistes les plus autorisés à leurs yeux. Chacun prend alors sa paire de ciseaux pour découper le texte et l'amputer, comme autrefois Ernest Renan, de tout passage qu'il juge légendaire, superflu et surtout irrationnel. Manier avec prudence, la critique textuelle ou littéraire peut se montrer utile. Il n'est pas interdit d'exercer notre sagacité pour bien comprendre un texte en comparant, par exemple, les divers manuscrits qui nous sont parvenus, en les confrontant à d'autres témoignages. La critique a toutefois ses limites. Les divers auteurs des évangiles indiquent simplement, par leurs détails respectifs, des angles de vue différents. Mais il s'agit bien d'un même récit concordant. Il faut en suivre avec perspicacité le fil conducteur qui mène au grand jour de la révélation pour ne pas risquer de se perdre dans les méandres du labyrinthe herméneutique. En accord avec de nombreux et éminents exégètes dont l'autorité ne manque pas de solides appuis à travers les siècles comme de nos jours, nous choisissons de prendre tout ensemble et les récits animés des témoins oculaires rapportés par les évangiles et les références explicites sous la plume des apôtres au sacrifice consenti par le Messie pour racheter les hommes et les femmes de ce monde en se chargeant de leurs fautes devant Dieu. Car sans cet arbre touffu aux branches élancées vers le ciel, il n'est pas de jardin qui puisse abriter nos souffrances et nos joies, nos morts et nos amours. Nous arrêtons ici la lecture du chapitre 14. Nous avons traversé le jardin de la souffrance. Jésus seul, les disciples s'étant endormis, son arrestation suite à la trahison de Judas, et enfin, nous avons vu le jardin de la tombe. Notre prochaine lecture nous permettra toujours, dans le jardin de la tombe, de découvrir plus particulièrement les divers récits qui nous parleront de la résurrection. Retrouvez donc cette suite dans l'émission « Je lis pour vous », diffusée les mardis et mercredis à 21h30, rediffusion lundi et mardi à 6h sur 103.2 FM ou en DAB+, sur notre radio à Nîmes et ses alentours, ou sur notre site internet www.radioalliance-plus.fr. Et à bientôt, chers auditeurs!